Nicolas Demorand.
Bonsoir Charline Vanhoenacker, bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce jeudi 16 juin, 18h15 en plein ramadan, on va s'intéresser aux différents aspects de l'économie halal. Florence Bergeau-Blackler et Abbas Bendali sont les invités tout à l'heure d'Un jour dans le monde. À 19h20, le marché de l'immobilier en France, les hebdos nous disent une fois de plus que c'est le moment d'acheter. En raison notamment des taux d'intérêt extrêmement bas. Alors pour vous faire une idée et répondre à toutes vos questions, deux spécialistes au micro, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Mais tout de suite, c'est le journal de Florence Paracuelos que je salue. Bonsoir Florence.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, le « ça va mieux » de François Hollande en chiffres. Ce sont les prévisions de l'INSEE qui nous annoncent une croissance qui tient et une baisse conséquente du chômage d'ici la fin de l'année. Le tableau pourrait être assombri, cela dit, par les Britanniques en cas de Brexit. Grosse angoisse en Europe à une semaine du référendum. Les marchés financiers craignent le pire. Nous irons à Bruxelles. Dans ce journal également, des hooligans russes condamnés à 1 à 2 ans de prison ferme après les violences de Marseille ce week-end. Le régime d'assurance chômage qui ne changera pas au 1er juillet. Patronat et syndicats n'ont pas réussi à s'entendre sur une réforme. Et puis nous irons à Lens, où les Anglais exhalent la bière et exultent de joie. Leur équipe s'est imposée 2-1 face au Pays de Galles. La météo, nous venons encore de vivre le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C'est ce qu'on nous dit tous les mois et c'est donc valable encore en mai. Pour demain, ce sera variable et pas spécialement chaud. On verra ça dans un quart d'heure. Cette fois, c'est l'INSEE qui le dit, ça va mieux. Derrière les fumigènes et les gaz lacrymogènes qui font l'actualité, la France est en train de sortir du brouillard économique. La reprise est bien là, la croissance va dépasser les prévisions du gouvernement cette année, annonce l'INSEE. Quant au chômage, Delphine Simon, il est censé baisser comme jamais depuis 9 ans.
Oui, tous les voyants sont au vert ou presque, la croissance s'accélère. L'INSEE prévoit 1,6% cette année, après 1,2% l'an dernier. Et ce qui est très positif, c'est que cette reprise, elle n'est plus seulement tirée par le pétrole bon marché, l'euro faible et les taux d'intérêt. Elle s'appuie désormais sur l'investissement des entreprises, mais aussi sur la consommation des ménages. Plus 1% au printemps, c'est du jamais vu en 10 ans, grâce aux ventes de biens, d'équipements. Il y a aussi un effet euro de football, explique Vladimir Passeron, le chef du département de la conjoncture.
Beaucoup d'achats de billets pour l'euro 2016 qui a boosté également, dopé la consommation pour le premier trimestre. Donc c'est de l'ordre de 200 millions d'euros et qui a contribué à la hausse à la fois de la consommation et du PIB.
Qui dit PIB et produit intérieur brut en hausse, dit aussi création d'emplois. De quoi faire baisser le taux de chômage selon Vladimir Passeron.
On a un emploi maintenant qui est sur un rythme de l'ordre de 30-40 000 créations d'emplois par trimestre. Et donc, sur l'année, on s'attend à 210 000 emplois. Et ce niveau d'emploi serait suffisant pour que le chômage baisse. Et ce que nous prévoyons, c'est une baisse du taux de chômage de 0,4 points d'ici la fin de l'année.
Selon l'INSEE, la courbe du chômage devrait donc bel et bien s'inverser avant la présidentielle.
Delphine Simon pour ses prévisions de l'INSEE en forme de sortie du tunnel, si elles ne sont pas plombées par nos voisins de l'autre côté du Channel. C'est la grande peur du Brexit, donnée gagnant par les derniers sondages à une semaine du référendum. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On se ronge les ongles chez vous à Bruxelles, Quentin, comme dans les banques centrales et dans les salles de marché du monde entier.
Oui, il n'est pas excessif de dire en effet que l'incertitude qui va grandissant à mesure que l'on se rapproche de la date du référendum britannique rend particulièrement peu aventureux les marchés et ultra prudents les organes de gestion économique, et pas seulement en Europe, car les habituels spéculateurs s'attendent à des bouleversements, quel que soit le résultat du scrutin, le maintien du Royaume-Uni dans l'UE ne constituant en rien, selon eux, la garantie d'un retour à l'apaisement des économies. Et la perspective d'une crise économique imminente en Extrême-Orient alourdit encore l'ambiance. Du côté des responsables politiques, on cherche surtout à éviter de donner du grain à moudre aux partisans du Brexit. Donc, pas de déplacement outre-Manche, pas davantage de déclarations qui donneraient prise aux reproches d'immixtion dans les affaires intérieures britanniques. On n'est cependant pas à l'abri de dissonances entre dirigeants européens, car deux écoles s'affrontent, celle des plutôt pessimistes, pour qui le Brexit serait une catastrophe, et celle des plutôt optimistes, qui sont d'avis que l'UE survivra quoi qu'il arrive. Deux tendances qui ne s'accordent que sur une seule position, c'est que le choix est entre deux mauvaises. mauvaise option.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Et ce soir, la campagne est suspendue au Royaume-Uni après l'agression d'une députée pro-Brexit à coups de couteau dans le nord de l'Angleterre. Elle est dans un état critique. Son agresseur aurait crié « Britain first » en l'attaquant la Grande-Bretagne d'abord. Pas d'accord sur l'assurance chômage en France et l'échec de la négociation entre syndicats et patronats acté aujourd'hui. L'actuelle convention d'indemnisation des chômeurs sera donc prolongée au-delà du 30 juin et l'accord conclu sur les intermittents appliqué dans la foulée. Et la ministre du Travail et les syndicats accusent le patronat d'être responsable du blocage. L'UNEDIC accusera 30 milliards d'euros de dettes à la fin de l'année. On se demande comment va se passer la rencontre entre Myriam El-Khomri et Philippe Martinez demain, en pleine offensive du gouvernement contre des cégétistes accusés au mieux de complaisance avec les casseurs, au pire d'être eux-mêmes des casseurs. 18 personnes, dont un militant CGT du Loiret, comparaissent aujourd'hui à Paris après les affrontements de mardi.
Et puis, ces autres comparutions immédiates aujourd'hui, Florence. Trois Russes interpellés après les très violents affrontements du week-end à Marseille, en marge du match Angleterre-Russie.
Trois Russes condamnés à des peines de 1 à 2 ans de prison ferme sur place à Marseille. Marie-Christine Loriol.
Le tribunal n'a pas suivi à la lettre les réquisitions, mais les peines sont lourdes. 12, 18 et 24 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à la barre. Des sanctions assorties d'une interdiction du territoire national français pendant 2 ans. Dans le box des accusés, Nikolaï, Sergueï et Alexeï, des trentenaires, tous liés professionnellement à des clubs moscovites, le Lokomotiv ou le Dynamo, ont bien tenté de minimiser leur participation aux échauffourées samedi à Marseille. Mais les vidéos projetées à l'audience sont accablantes, moins par les actions filmées que par la violence qu'elles dégagent. Dans la salle du tribunal, le silence est total face aux images de ces hordes qui avancent en ordre de bataille. Ils allaient chasser l'anglais, explique le procureur de la République. Je n'ai jamais frappé personne, mes mains sont propres, répond l'un des prévenus. Un autre veut faire croire qu'il portait secours à un Anglais, difficilement crédible, même pour les avocats commis d'office, et qui tenteront en vain de faire porter à la pression médiatique et politique une part de responsabilité. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
20 autres supporters russes seront expulsés lundi prochain, parmi lesquels Alexandre Shprygine, responsable ultranationaliste que connaît Vladimir Poutine. Beaucoup d'émotions aujourd'hui encore à Magnanville, dans les Yvelines, là où un policier a été assassiné lundi par un djihadiste avec sa compagne. Une marche blanche a rassemblé 2500 personnes ce matin. Trois hommes sont toujours entendus dans le cadre de l'enquête. Leur garde à vue a été prolongée. Et les personnalités menacées par l'arrossi à Ballon ont été placés sous protection policière. 5 journalistes, un universitaire et 2 rappeurs cités dans une vidéo qu'il avait diffusée avant d'être abattu par le RAID. Arrestation lundi d'un jeune radicalisé de 22 ans à Carcassonne. On l'apprend ce soir. Un homme soupçonné de préparer une action violente contre des Américains et des Russes, selon l'AFP. Il était en possession d'un couteau et d'une petite masse. Barack Obama au chevet des familles des victimes d'Orlando aujourd'hui, alors que les États-Unis avancent tout doucement sur l'éternel dossier de l'accès aux armes, le Sénat américain va pouvoir examiner un projet de loi qui interdit d'en vendre aux personnes placées sous surveillance antiterroriste. Il a fallu 14 heures de bataille parlementaire pour en arriver là la nuit dernière. Toujours en bref, une des boîtes noires du Paris Le Caire a été retrouvée en Méditerranée. Il s'agit de l'enregistreur des voix du cockpit qui permettra peut-être d'éclairer les raisons du crash qui a fait 66 morts le mois dernier.
18h09, sauver l'allemand, c'est toujours le mot d'ordre avec la réforme, Florence, du collège qui va s'appliquer dès la rentrée.
Une réforme qui prévoit notamment l'apprentissage d'une deuxième langue dès la cinquième et la suppression d'un tiers des classes bilingues. Or, ces classes portent l'apprentissage de l'allemand devancé par l'espagnol. Et malgré les assurances du ministère de l'Éducation nationale, il reste une préoccupation outre-Rhin. Ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne a fait le point sur ce qui va permettre de continuer à valoriser cette langue allemande, Sonia Bourane.
L'ambassadeur d'Allemagne en France ne dit pas qu'il est inquiet, mais Nikolaus Meyer-Landrut sera vigilant à la rentrée prochaine. Il veut encourager tout ce qui pourra sauver l'allemand.
On est mobilisé. Je pense que ça, c'est le bon mot. Vous l'avez vu, tous les acteurs allemands en France essayent de soutenir l'apprentissage de l'allemand en France. Il faut regarder ce qu'on peut faire pour inciter l'intérêt des jeunes et des parents déjà en primaire pour s'orienter vers l'allemand. C'est le choix des élèves qui décide de l'enseignement de l'allemand. Donc ce que nous essayons de faire, c'est en quelque sorte susciter de bonne volonté.
Et parmi les initiatives intéressantes, la Mobi Classe est assurée par de jeunes Allemands qui se déplacent dans les collèges pour faire connaître leur langue aux élèves de 6e, notamment. Camilla Brockmeyer est l'une des animatrices de ces séances en Normandie.
J'essaie pas de convaincre. J'essaie qu'ils comprennent toutes seules. Parce qu'on commence toujours avec une séquence, on parle que allemand. Je prétends ne pas parler français. Au début, ils sont toujours un peu « Oula, c'est quoi ?» Et après, ils comprennent très bien. En fait, il y a des mots qui ressemblent beaucoup à l'anglais. Quand je dis « Mein Name ist Camilla », il n'y a pas un élève qui ne comprend pas que ça veut dire « Je m'appelle Camilla ». Et après, eux-mêmes, ils font le lien. Ah oui, effectivement, l'allemand et l'anglais sont très proches.
Ces animatrices croulent sous les demandes des professeurs d'allemand qui cherchent à remplir leur classe.
Sonia Bourane, légère erratum de ma part. J'ai parlé tout à l'heure d'une députée britannique pro-Brexit poignardée par un homme aujourd'hui. Il s'agissait, vous l'aurez sans doute compris, d'une députée anti-Brexit pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. 1,5 € par mois pendant 18 mois, voilà ce que nous allons payer selon Ségolène Royal pour rattraper l'insuffisance des tarifs EDF en 2014. Tarifs réglementés fixés par le gouvernement, mais trop faible, a jugé hier le Conseil d'État, saisi par les concurrents d'EDF, qui ne vont pas s'arrêter là. Ils ont déposé un autre recours pour l'année 2015. Le réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim à l'arrêt depuis 3 jours. EDF va enquêter sur le défaut d'une pièce fabriquée par l'usine Areva du Creusot. 80 irrégularités ont été identifiées dans les dossiers de fabrication de l'usine et donc potentiellement dans les réacteurs en exploitation. Un mauvais point pour Nicolas Sarkozy, la haute autorité pour la primaire, recommande aujourd'hui de bien distinguer le parti et la campagne électorale. Elle avait été saisie par des candidats à la primaire sur l'ambiguïté des meetings du président Les Républicains, pas encore officiellement candidat. Là, c'est la confusion totale entre politique et culture. La mairie Front National de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, a demandé aux artistes invités pour la fête de la musique de signer une clause de neutralité politique. Résultat, l'affiche ne sera pas complète. Grégoire Lecalot.
Ils danseront sûrement, les spectateurs de la fête de la musique à Villers-Cotterêts, mais pas sur la musique des Nantais de Gabriel Saglio et les VIP. Le groupe était pourtant programmé depuis avril, mais la mairie a apposé au contrat une clause de neutralité politique sous peine de non-paiement de la prestation, inacceptable pour Gabriel Saglio.
Au-delà de l'éthique, juste voilà, un concert, il est fait, il est payé, il est pas fait, il est pas payé, mais il n'y a pas de conditions imposées pour qu'il soit rémunéré. Et mon intention, elle était juste de montrer ce mélange des cultures sans peur que nous, on véhicule dans notre musique. Le propos n'était pas du tout de refuser d'aller jouer pour une mairie Front National.
Et finalement, c'est la mairie qui refuse. Lundi dernier, elle annule Gabriel Saglio. Pour le maire, Franck Briffaut, la clause n'est pas un problème.
Moi, j'aime les choses claires. Je préfère le dire avant, pour qu'il n'y ait pas de problème le jour du spectacle. Là, on nous a tendu une embuscade l'année dernière. Il est très désagréable de se faire prendre en otage le jour du spectacle, parce qu'en plus, ces gens-là avaient même refusé publiquement de me serrer la main. Excusez-moi, mais ça, c'est plus de l'art.
Et monsieur le maire veille au grain sur les yeux et les oreilles de ses administrés. En 2014, il déprogramme un groupe de rock non conforme à l'image de Villers-Cotterêts, dit-il. Et en 2015, il fait retirer une œuvre d'une exposition à la médiathèque. Son sujet, la montée de l'extrême droite.
Grégoire Lecalot, direction Lens. Pour terminer, Lens où les écoles sont restées fermées aujourd'hui pour cause de matchs et de débarquements massifs de supporters anglais. 40 à 50 000 supporters dans une ville de 30 000 habitants. Des hectolitres de bière leur ont été servis depuis ce matin et l'ont redouté des incidents. Mais les Anglais ont gagné 2-1 face au Pays de Galles. Et tout va bien, Géraldine Allot, en direct de Lens.
Les frères ennemis anglais et gallois sont ressortis du stade dans une ambiance plutôt fraternelle. Les Anglais arboraient un air extatique et conquérant après cette victoire arrachée dans le temps additionnel.
Quel match fantastique, merveilleux. L'Angleterre a su revenir en deuxième mi-temps. Entre l'Angleterre et le Pays de Galles, il y a beaucoup de rivalité. Beaucoup de Gallois jouent dans notre championnat. On se connaît très bien. Ça va beaucoup chambrer dans les vestiaires. Ce match était top. Très bonne ambiance, aucun débordement et ça, c'est génial.
Les Gallois, bien que très déçus par cette défaite, n'en restent pas moins fair play, tel ce vieux monsieur qui fait le Tour de France pour suivre son équipe pendant l'Euro.
Je ne me sens pas très bien, je suis dévasté même. C'est bien pour l'Angleterre. On aurait dû gagner ce match. J'espère que maintenant on va battre les Russes et se qualifier pour les huitièmes. Je croise les doigts et tout ce que je peux croiser.
Voilà, il y a fort à parier que les Gallois et les Anglais vont se chambrer au pub ce soir et peut-être même boire des coups ensemble, car finalement, après cette victoire anglaise, les deux équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Un Anglais rendu magnanime par la victoire me disait tout à l'heure, finalement, on est tous britanniques, isn't it?
Géraldine Allot en direct de Lens avec Arthur Gerbeau, Ukraine. Espagne-Irlande du Nord. Ça, c'est le deuxième match de la journée depuis un quart d'heure à Lyon. Et ce soir, au Stade de France, l'Allemagne affrontera la Pologne.
Merci Florence Paracuelos. Prochain journal à 19h sur Inter avec Sébastien Paour. 19h20, le téléphone sonne sur le marché de l'immobilier en France. Sujet qui fait, vous le savez, les délices des hebdos en kiosque, avec toujours cette idée que c'est le bon moment pour acheter. Alors cette fois-ci, ce sont les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas et permettent d'emprunter à peu de frais. On va essayer de faire la photographie de ce marché tout à l'heure, de répondre aussi à toutes vos questions. Si vous souhaitez acheter ou vendre des biens immobiliers, deux spécialistes au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Un jour dans le monde après la météo d'Élodie Calac.
La météo avec Fnac.com. Plus de 3 millions de livres et d'e-books. Avec la carte Fnac, profitez de la livraison gratuite de tous vos livres. Fnac.
Élodie, bonsoir.
Bonsoir.
Toujours le même type de temps demain, des averses.
Oui, c'est ça. Sur la majorité du pays, les nuages seront encore à l'honneur, Nicolas. Alors, quelques averses déjà le matin, surtout sur les régions voisines de la Manche, de l'Atlantique. Un coup de tonnerre possible vers l'Aquitaine. Dans l'après-midi, ça s'éclaircira. Des éclaircies plutôt belles. Mais là, les averses orageuses reprendront du service. Seules les côtes du Nord-Ouest jusqu'au Pas-de-Calais devraient y échapper. Sur les Pyrénées, ça commencera bien le matin, de belles éclaircies. L'après-midi, ce sera menaçant, très nuageux avec des averses. Et puis autour de la Méditerranée, vous serez les plus chanceux. Un temps ensoleillé toute la journée, mais avec du vent sur la Côte d'Azur et sur le nord de la Corse.
Peu d'évolution pour les températures.
C'est vrai, 10 à 16 degrés le matin, mais l'après-midi, on aura seulement 16 à 20 degrés sur les régions du nord, 20 degrés à Paris. Dans le sud, 19 à 23 degrés. Et on ira jusqu'à 26 degrés pour le sud-est.
Élodie Calac, Météo France.